Chapitre 9. L'hiver arriva. Nous avions fait le projet d'en supporter les rigueurs plutôt que d'abandonner notre chère retraite. Léonie me disait que jamais il n'avait été si heureux, que j'étais la seule femme qu'il eût jamais aimée, qu'il voulait renoncer au monde pour vivre et mourir dans mes bras. Son goût pour les plaisirs, sa passion pour le jeu, tout cela était évanoui, oublié à jamais. Oh, que j'étais reconnaissant de voir cet homme si brillant, si adulé, renoncer sans regret à tous les enivrements d'une vie d'éclat et de fête, pour venir s'enfermer avec moi dans une chaumière. Et soyez sûr, Dona Léo, que Léonie ne me trompait point alors. S'il est vrai que le puissant motif l'engageait à se cacher, du moins il est certain qu'il se trouva heureux dans sa retraite et que j'y fus aimé. Eût-il pu feindre cette sérénité durant 6 mois sans qu'elle fût altérée un seul jour? Et pourquoi ne m'eût-il pas aimé? J'étais jeune, belle, j'avais tout quitté pour lui, je l'adorais. Allez, je ne m'abuse plus sur son caractère. Je sais tout et je vous dirai tout. Cette âme est bien laide et bien belle, bien vile et bien grande. Quand on n'a pas la force de haïr cet homme, il faut l'aimer et devenir sa proie. Mais l'hiver débuta si rudement que notre séjour dans la vallée devint extrêmement dangereux. En quelques jours, la neige monta sur la colline et arriva jusqu'au niveau de notre chalet. Elle menaçait de l'engloutir et de nous y faire périr de famine. Mais Léonie s'obstinait à rester. Il voulait faire des provisions et braver l'ennemi. Mais Johann assura que notre perte était certaine si nous nous battions en retraite au plus vite. Que depuis 10 ans on n'avait pas vu un pareil hiver et qu'au dégel le chalet serait balayé comme une plume par les avalanches, à moins d'un miracle de Saint-Bernard et de Notre-Dame des Lavanges. Si j'étais seul, me dit Léonie, je voudrais attendre le miracle et me moquer des Lavanges. Mais je n'ai plus de courage quand tu partages mes dangers. Nous partirons demain. Il le faut bien, lui dis-je, mais où irons-nous? Je serai reconnue et découverte tout de suite. On me reconduira de vive force chez mes parents.
Il y a 1000 moyens d'échapper aux hommes et aux lois, répondit Léonie en souriant. Nous en trouverons bien un, ne t'inquiète pas. L'univers est à notre disposition.
Et par où commencerons-nous? Lui demandai-je en m'efforçant de sourire aussi.
« Bon, je n'en sais rien encore, dit-il, mais qu'importe, nous serons ensemble. Où pouvons-nous être malheureux ?»«
Hélas, lui dis-je, serons-nous jamais aussi heureux qu'ici ?»«
Veux-tu y rester ? » demanda-t-il.
« Non, lui répondis-je, nous ne le serions plus. En présence du danger, nous serions toujours inquiets l'un pour l'autre. » Nous fîmes les apprêts de notre départ. Johann passa la journée à déblayer le sentier par lequel nous devions partir. Pendant la nuit, il m'arriva une aventure singulière et à laquelle, bien des fois depuis, je craignis de réfléchir. Au milieu de mon sommeil, je fus saisi par le froid et je m'éveillai. Je cherchais Léonie à mes côtés. Il n'y était plus. Sa place était froide et la porte de la chambre, à demi entr'ouverte, laissait pénétrer un vent glacé. J'attendis quelques instants, mais Léonie ne revenant pas, je m'étonnai. Je me levai, je m'habillai à la hâte. J'attendis encore avant de me décider à sortir, craignant de me laisser dominer par une inquiétude puérile. Son absence se prolongea. Une terreur invincible s'empara de moi, et je sortis à peine vêtu par un froid de 15 degrés. Je craignais que Léonide eût encore été au secours de quelque malheureux perdu dans les neiges, comme cela était arrivé peu de nuits auparavant, et j'étais résolu à le chercher et à le suivre. J'appelai Johann et sa femme. Ils dormaient d'un si profond sommeil qu'ils ne m'entendirent pas. Alors, dévoré d'inquiétude, je m'avançai jusqu'au bord de la petite plateforme palissadée qui entourait le chalet, et je vis une faible lueur argenter la neige à quelque distance. Je crus reconnaître la lanterne que Léonie portait dans ses excursions généreuses. Je courus de ce côté aussi vite que me le permit la neige, où j'entrai jusqu'aux genoux. J'essayai de l'appeler, mais le froid me faisait claquer les dents, et le vent qui me venait à la figure interceptait ma voix. J'approchai enfin de la lumière, et je pus voir distinctement Léonie. Il était immobile à la place où je l'avais aperçu d'abord, et il tenait une bêche. J'approchai encore, la neige amortissait le bruit de mes pas, j'arrivai tout près de lui sans qu'il s'en aperçût. La lumière était enfermée dans son cylindre de métal, ne sortait que par une fente opposée à moi et dirigée sur lui. Je vis alors qu'il avait écarté la neige et entamé la terre avec sa bêche. Il était jusqu'aux genoux dans un trou qu'il venait de creuser. Cette occupation singulière à une pareille heure et par un temps si rigoureux me causa une frayeur ridicule. Et Léonie semblait agitée d'une hâte extraordinaire. De temps en temps, il regardait autour de lui avec inquiétude. Je me courbai derrière un rocher, car je fus épouvanté de l'expression de sa figure. Il me sembla qu'il allait me tuer s'il me trouvait là. Toutes les histoires fantastiques et folles que j'avais lues, tous les commentaires bizarres que j'avais faits sur son secret me revinrent à l'esprit. Je crus qu'il venait d'éterrer un cadavre, et je faillis m'évanouir. Je me rassurai un peu en le voyant continuer de creuser et retirai bientôt un coffre enfoui dans la terre. Il le regarda avec attention, examina si la serrure n'avait pas été forcée, puis il le posa hors du trou et commença à y rejeter la terre et la neige sans prendre beaucoup de soin pour cacher les traces de son opération. Quand je le vis près de revenir à la maison avec son coffre, je craignis qu'il ne s'aperçût de mon imprudente curiosité et je m'enfuis aussi vite que je pus. Je me hâtai de jeter dans un coin mes hardes humides et de me recoucher, résolu à feindre un profond sommeil lorsqu'il entrerait. Mais j'eus le loisir de me remettre de mon émotion, car il resta encore plus d'une demi-heure sans reparaître. Je me perdais en commentaires sur ce coffret mystérieux enfoui sans doute dans la montagne depuis notre arrivée, et destiné à nous accompagner comme un talisman de salut ou comme un instrument de mort. Il me sembla qu'il ne devait pas contenir d'argent, car il était assez volumineux, et pourtant Léonie l'avait soulevé d'une seule main et sans effort. C'était peut-être des papiers d'où dépendait son existence entière. Ce qui me frappait le plus, c'est qu'il me semblait déjà avoir vu ce coffre quelque part. Mais il m'était impossible de me rappeler en quelles circonstances. Cette fois, sa forme et sa couleur se gravèrent dans ma mémoire comme par une sorte de nécessité fatale. Pendant toute la nuit, je l'eus devant les yeux,
Et dans mes rêves, j'en voyais sortir une quantité d'objets bizarres. Tantôt des cartes représentant des figures étranges, tantôt des armes sanglantes, puis des fleurs, des plumes et des bijoux, et puis des ossements, des vipères, des morceaux d'or, des chaînes et des carcans de fer. Je me gardais bien de questionner Léonie et de lui laisser soupçonner ma découverte. Il m'avait dit souvent que le jour où j'apprendrais son secret, tout serait fini entre nous. Et quoiqu'il me rendît grâce à deux genoux d'avoir cru en lui aveuglément, il me faisait souvent comprendre que la moindre curiosité de ma part lui serait odieuse. Nous partîmes le lendemain dos de mulet et nous prîmes la poste à la ville la plus prochaine jusqu'à Venise. Nous y descendîmes dans une de ces maisons mystérieuses que Léonie semblait avoir à sa disposition dans tous les pays. Celle-là était sombre, délabrée et comme cachée dans un quartier désert de la ville. Il me dit que c'était la demeure d'un de ses amis absents. Il me pria de ne pas trop m'y déplaire pendant un jour ou deux. Il ajouta que des raisons importantes l'empêchaient de se montrer sur le champ dans la ville, mais qu'au plus tard, dans 24 heures, je serais convenablement logé et n'aurais pas à me plaindre du séjour de sa patrie. Nous venions de déjeuner dans une salle humide et froide, lorsqu'un homme mal mis, d'une figure désagréable et d'un teint maladif, se présenta en disant que Léonie l'avait fait appeler. « Oui, oui, mon cher Thaddée, » répondit Léonie en se levant avec précipitation, « soyez le bienvenu et passons dans une autre pièce pour ne pas ennuyer madame de détails d'affaires. » Léonie vint m'embrasser une heure après. Il avait l'air agité mais content, comme s'il venait de remporter une victoire. « Je te quitte pour quelques heures, me dit-il, je vais faire préparer ton nouveau gîte. Nous y coucherons demain soir. »
Chapitre 10. Il fut dehors pendant tout le jour. Le lendemain, il sortit de bonne heure. Il semblait fort affairé, mais son humeur était plus joyeuse que je ne l'avais encore vue. Cela me donna le courage de m'ennuyer encore 12 heures et chassa la triste impression que me causait cette maison silencieuse et froide. Dans l'après-midi, pour me distraire un peu, j'essayai de la parcourir. Elle était fort ancienne, des restes d'ameublement surannés, des lambeaux de tenture et quelques tableaux à demi dévorés par les rats occupèrent mon attention. Mais un objet plus intéressant pour moi me rejeta dans d'autres pensées. En entrant dans la chambre où avait couché Léonie, je vis à terre le fameux coffre. Il était ouvert et entièrement vide. J'eus l'âme soulagée d'un grand poids. Le dragon inconnu enfermé dans ce coffre s'était donc envolé. La destinée terrible qu'il me semblait représenter ne pesait donc plus sur nous. « Allons, me dis-je en souriant, la boîte de Pandore s'est vidée, l'espérance est restée pour moi. » Comme j'allais me retirer, mon pied se posa sur un petit morceau d'ouate oublié à terre, au milieu de la chambre avec des lambeaux de papier de soie chiffonnés. Je sentis quelque chose qui résistait, et je le relevais machinalement. Mes doigts rencontrèrent le même corps solide au travers du coton, et en l'écartant, j'y trouvai une épingle en gros brillant que je reconnus aussitôt pour appartenir à mon père et pour m'avoir servi le jour du dernier bal à attacher une écharpe sur mon épaule. Cette circonstance me frappa tellement que je ne pensais plus au coffre ni au secret de Léonie. Je ne sentis plus qu'une vague inquiétude pour ces bijoux que j'avais emportés dans ma fuite et dont je ne m'étais plus occupé depuis, pensant que Léonie les avait renvoyés sur le champ. La crainte que cette démarche n'eût été négligée me fut affreuse. Et lorsque Léonie rentra, la première chose que je lui demandai ingénument fut celle-ci. « Mon ami, n'as-tu pas oublié de renvoyer les diamants de mon père lorsque nous avons quitté Bruxelles ?» Léonie me regarda d'une étrange manière. Il semblait vouloir pénétrer jusqu'aux plus intimes profondeurs de mon âme. « Mais qu'as-tu à ne pas me répondre ?» lui dis-je. « Qu'est-ce que ma question a d'étonnant ?»« Bah, quel diable de propos vient-elle » reprit-il avec tranquillité. « C'est qu'aujourd'hui, répondis-je, je suis entré dans ta chambre par désœuvrement et j'ai trouvé ceci par terre. Alors la crainte m'est venue que dans le trouble de nos voyages et l'agitation de notre fuite, tu n'eusses absolument oublié de renvoyer les autres bijoux. Quant à moi, je te l'ai à peine demandé, j'avais perdu la tête. » En achevant ces mots, je lui présentai l'épingle. Je parlais si naturellement et j'avais si peu l'idée de le soupçonner qu'il le vit bien. Et prenant l'épingle avec le plus grand calme, « Parbleu, dit-il, oh, je ne sais comment cela se fait. Où as-tu trouvé cela ? Es-tu sûr que cela vienne de ton père et n'ait pas été oublié dans cette maison par ceux qui l'ont occupé avant nous ?»« Oh non, lui dis-je, voici auprès du contrôle un cachet imperceptible. » C'est la marque de mon père. Avec une loupe, tu y verras son chiffre. À la bonne heure, dit-il, cette épingle sera restée dans un de nos coffres de voyage, et je l'aurais fait tomber ce matin en secouant quelques hardes. Heureusement, c'est le seul bijou que nous ayons emporté par mégarde. Tous les autres ont été remis à une personne sûre et adressée à Delpech, qui les aura exactement remis à ta famille. Je ne pense pas que celui-ci vaille la peine d'être rendu. Ce serait imposer à ta mère une triste émotion de plus, pour bien peu d'argent. Cela vaut encore au moins 10 000 francs, répondis-je. Eh bien, garde-la jusqu'à ce que tu trouves une occasion pour le renvoyer. Ah ça, es-tu prête? Les malles sont-elles refermées? Il y a une gondole à la porte et ta maison t'attend avec impatience. On sert déjà le souper. Une demi-heure après, nous nous arrêtâmes à la porte d'un palais magnifique. Les escaliers étaient couverts de tapis de drap amarantes. Les rampes de marbre blanc étaient chargées de rangées en fleurs, en plein hiver, et de légères statues qui semblaient se pencher sur nous pour nous saluer. Le concierge et 4 domestiques en livrée vinrent nous aider à débarquer. Léonie prit le flambeau de l'un d'eux, et l'élevant, il me fit sur la corniche du péristyle, il me le fit lire cette inscription en lettres d'argent sur un fond d'azur, « Palazzo Leoni ». Oh, mon ami, m'écriai-je, tu ne nous avais donc pas trompés, tu es riche et noble, et je suis chez toi. » Je parcourus ce palais avec une joie d'enfant. C'était un des plus beaux de Venise. L'ameublement et les tentures, éclatant de fraîcheur, avaient été copiés sur les anciens modèles, de sorte que les peintures des plafonds et l'ancienne architecture étaient dans une harmonie parfaite avec les accessoires nouveaux. Notre luxe de bourgeois et d'homme du Nord est si mesquin, si entassé, si commun, que je n'avais jamais conçu l'idée d'une pareille élégance. Je courais dans les immenses galeries comme dans un palais enchanté. Tous les objets avaient pour moi des formes inusitées, un aspect inconnu. Je me demandais si je faisais un rêve et si j'étais vraiment la patronne et la reine de toutes ces merveilles. Et puis, cette splendeur féodale m'entourait d'un prestige nouveau. Je n'avais jamais compris le plaisir ou l'avantage d'être noble. En France, on ne sait plus ce que c'est. En Belgique, on ne l'a jamais su. Ici, le peu de noblesse qui reste est encore fastueuse et fière. On ne démolit pas les palais, on les laisse tomber. Au milieu de ces murailles chargées de trophées et d'écussons, sous ces plafonds armoriés, en face de ces aïeux de Léonie, peints par Titien et Véronèse, les uns graves et sévères sous leurs manteaux fourrés, les autres élégants et gracieux sous leur juste au corps de satin noir, je comprenais cette vanité du rang, qui peut être si brillante et si aimable quand elle ne décore pas un sceau. Tout cet entourage d'illustration allait si bien à Léonie qu'il me serait impossible aujourd'hui encore de me le représenter roturier. Il était vraiment bien le fils de ces hommes à barbe noire et à main d'albâtre dont Van Dyck a immortalisé le type. Il avait leur profil d'aigle, leurs traits délicats et fins, leur grande taille et leurs yeux à la fois railleurs et bienveillants. Si ces portraits avaient pu marcher, ils auraient marché comme lui. S'ils avaient parlé, ils auraient eu son accent. « Et quoi ?» lui disais-je en le serrant dans mes bras. « C'est toi, mon seigneur Léoné Léonie, qui était l'autre jour dans ce chalet entre les chèvres et les poules, avec une pioche sur l'épaule et une blouse autour de ta taille. C'est toi qui as vécu 6 mois ainsi avec une pauvre fille sans nom et sans esprit qui n'a d'autre mérite que de t'aimer. Et tu vas me garder près de toi, tu vas m'aimer toujours et me le dire chaque matin, comme dans le chalet. Oh, c'est un sort trop élevé et trop beau pour moi. Je n'avais pas aspiré si haut et cela m'effraie en même temps que cela m'enivre. Ne sois pas effrayé, me dit-il en souriant. Sois toujours ma compagne, ma reine. À présent, viens souper, j'ai 2 convives à te présenter. Arrange tes cheveux, sois jolie. Et quand je t'appellerai ma femme, n'ouvre pas de grands yeux étonnés. Nous trouvâmes un souper exquis sur une table étincelante de vermeil, de porcelaine et de cristaux. Les 2 convives me furent gravement présentés. Ils étaient vénitiens, tous 2 agréables de figure, élégants dans leur manière, et quoique bien inférieurs à Léonie, ayant dans la prononciation et dans la tournure d'esprit une certaine ressemblance avec lui. Je lui demandai tout bas s'ils étaient ses parents. « Oui, me répondit-il, tout haut en riant, ce sont mes cousins. » « Sans doute, ajouta celui qu'on appelait le marquis, nous sommes tous cousins. » Le lendemain, au lieu de 2 convives, il y en eut 4 ou 5 différents à chaque repas. En moins de 8 jours, notre maison fut inondée d'amis intimes. Ces assidus me dévorèrent de bien douces heures que j'aurais pu passer avec Léonie et qu'il fallait partager avec eux tous. Mais Léonie, après un long exil, semblait heureux de revoir ses amis et d'égayer sa vie. Je ne pouvais former un désir contraire au sien, et j'étais heureuse de le voir s'amuser. Il est certain que la société de ces hommes était charmante. Ils étaient tous jeunes et élégants, gais ou spirituels, aimables ou amusants. Ils avaient d'excellentes manières et des talents pour la plupart. Toutes les matinées étaient employées à faire de la musique. Dans l'après-midi, nous nous promenions sur l'eau. Après le dîner, nous allions au théâtre et en rentrant, on soupait et on jouait. Je n'aimais pas beaucoup à être témoin de ce dernier divertissement où des sommes immenses passaient chaque soir de main en main. Léonie m'avait permis de me retirer après le souper et je n'y manquais pas. Peu à peu, le nombre de nos connaissances augmenta tellement que je ressentis de l'ennui et de la fatigue, mais je n'en exprimais rien. Léonie semblait toujours enchantée de cette vie dissipée. Tout ce qu'il y avait de dandys de toutes nations à Venise se donna rendez-vous chez nous pour boire, pour jouer et pour faire de la musique. Les meilleurs chanteurs des théâtres venaient souvent mêler leur voix à nos instruments et à la voix de Léonie, qui n'était ni moins belle ni moins habile que la leur. Malgré le charme de cette société, je sentais de plus en plus le besoin du repos. Il est vrai que nous avions encore de temps en temps quelques bonnes heures de tête à tête. Les dandys ne venaient pas tous les jours, mais les habitués se composaient d'une douzaine de personnes de fondation à notre table. Léonie les aimait tant que je ne pouvais me défendre d'avoir aussi de l'amitié pour elle. C'était elle qui animait tout le reste par leur suprématie en tout sur les autres. Ces hommes étaient vraiment remarquables et semblaient en quelque sorte des reflets de Léonie. Ils avaient entre eux cette espèce d'air de famille, cette conformité d'idées et de langage qui m'avait frappé dès le premier jour. C'était un je ne sais quoi de subtil et de recherché que n'avaient pas même les plus distingués parmi tous les autres. Leur regard était plus pénétrant, leur réponse plus prompte, leur aplomb plus seigneurial, leur prodigalité de meilleur goût. Ils avaient chacun une autorité morale sur une partie de ces nouveaux venus. Ils leur servaient de modèle et de guide dans les petites choses d'abord et plus tard dans les grandes. Et Léonie était l'âme de tout ce corps, le chef suprême, qui imposait à cette brillante coterie masculine la mode, le ton, le plaisir et la dépense. Cette espèce d'empire lui plaisait, je ne m'en étonnais pas. Je l'avais vu régner plus ouvertement encore à Bruxelles, et j'avais partagé son orgueil et sa gloire. Mais le bonheur du chalet m'avait initié à des joies plus intimes et plus pures. Je le regrettais et ne pouvais m'empêcher de le dire. Et moi aussi, me disait-il, je le regrette, ce temps de délices, supérieur à toutes les fumées du monde, mais Dieu n'a pas voulu changer pour nous le cours des saisons. Il n'y a pas plus d'éternel bonheur que de printemps perpétuel. C'est une loi de la nature à laquelle nous ne pouvions nous soustraire. Sois sûr que tout est arrangé pour le mieux dans ce monde mauvais. Le cœur de l'homme n'a pas plus de vigueur que les biens de la vie n'ont de durée. Soumettons-nous. Plions. Les fleurs se courbent, se flétrissent et renaissent tous les ans. L'âme humaine peut se renouveler comme une fleur quand elle connaît ses forces et qu'elle ne s'épanouit pas jusqu'à se briser. 6 mois de félicité sans mélange, c'était immense, ma chère. Nous serions morts de trop de bonheur si cela eût continué, ou nous en aurions abusé. La destinée nous commande de redescendre de nos cimes éthérées et de venir respirer un air moins pur dans les villes. Acceptons cette nécessité et croyons qu'elle nous est bonne. Quand le beau temps reviendra, nous retournerons à nos montagnes. Nous serons avides de retrouver tous les biens dont nous avons été sevrés ici. Nous sentirons mieux le prix de notre calme intimité et cette saison d'amour et de délices que les souffrances de l'hiver nous eussent gâtées reviendra plus belle encore que la saison dernière. « Oh oui, lui disais-je en l'embrassant, nous retournerons en Suisse. Oh que tu es bon de le vouloir et de me le promettre. Mais dis-moi, Léonie, ne pourrions-nous vivre ici plus simplement et plus ensemble? Nous ne nous voyons plus qu'au travers d'un nuage de ponche, nous ne parlons plus qu'au milieu des chants et des rires. Pourquoi avons-nous tant d'amis ? Ne nous suffirions-nous pas bien l'un à l'autre ? Ma Juliette, répondait-il, les anges sont des enfants, et vous êtes l'un et l'autre. Vous ne savez pas que l'amour est l'emploi des plus nobles facultés de l'âme et qu'on doit ménager ses facultés comme la prunelle de ses yeux. Vous ne savez pas, petite fille, ce que c'est que votre propre cœur. Bonne, sensible et confiante, vous croyez que c'est un foyer d'éternel amour, mais le soleil lui-même n'est pas éternel. Tu ne sais pas que l'âme se fatigue comme le corps, et qu'il faut le soigner de même. Laisse-moi faire, Juliette, laisse-moi entretenir le feu sacré dans ton cœur. J'ai intérêt à me conserver ton amour, à t'empêcher de le dépenser trop vite. Toutes les femmes sont comme toi. Elles se pressent tant d'aimer que tout à coup elles n'aiment plus, sans savoir pourquoi. Méchant, lui disais-je, sont-ce là les choses que tu me disais le soir sur la montagne? Me priais-tu de ne pas trop t'aimer? Croyais-tu que j'étais capable de m'en lasser? Non, mon ange, répondait Léonie en baisant mes mains, et je ne le crois plus non plus à présent, mais écoute mon expérience. Les choses extérieures ont sur nos sentiments les plus intimes une influence contre laquelle les âmes les plus fortes luttent en vain. Dans notre vallée, entourée d'air pur, de parfums et de mélodies naturelles, nous pouvions et nous devions être tout amour, toute poésie, tout enthousiasme. Mais souviens-toi qu'encore là, je le ménageais, cet enthousiasme si facile à perdre, si impossible à retrouver quand on l'a perdu. Souviens-toi de nos jours de pluie, où je mettais une espèce de rigueur à t'occuper pour te préserver de la réflexion et de la mélancolie, qui en est la suite inévitable. Sois sûr que l'examen trop fréquent de soi-même et des autres est la plus dangereuse des recherches. Il faut secouer ce besoin égoïste qui nous fait toujours fouiller dans notre cœur et dans celui qui nous aime, comme un laboureur cupide qui épuise la terre à force de lui demander de produire. Il faut savoir se faire insensible et frivole par intervalles. Ces distractions ne sont dangereuses que pour les cœurs faibles et paresseux. Mais une âme ardente doit les rechercher pour ne pas se consumer elle-même. Elle est toujours assez riche. Un mot, un regard suffit pour la faire tressaillir au milieu du tourbillon léger qui l'emporte et pour la ramener plus ardente et plus tendre au sentiment de sa passion. Ici, vois-tu, nous avons besoin de mouvement et de variété. Ces grands palais sont beaux, mais ils sont tristes. La mousse marine en ronge le pied et l'eau limpide qui le reflète est souvent chargée de vapeurs qui retombent en larmes. Ce luxe est austère et ces traces de noblesse qui te plaisent ne sont qu'une longue suite d'épitaphes et de tombeaux qu'il faut orner de fleurs. Il faut remplir de vivant cette demeure sonore où tes pas te feraient peur si tu étais seul. Il faut jeter de l'argent par les fenêtres à ce peuple qui n'a pour lit que le parapet glacé des ponts, afin que la vue de sa misère ne nous rende pas soucieux au milieu de notre bien-être. Laisse-toi égayer par nos rires et endormir par nos chants. Sois bonne et insouciante. Je me charge d'arranger ta vie et de te la rendre agréable quand je ne pourrai te la rendre enivrante. Sois ma femme et ma maîtresse à Venise. Tu redeviendras mon ange et ma sylphide sur les glaciers de la Suisse. Chapitre 11. C'est par de tels discours qu'il apaisait mon inquiétude et qu'il me traînait, assoupie et confiante, sur le bord de l'abîme. Je le remerciais tendrement de la peine qu'il prenait pour me persuader quand d'un signe il pouvait me faire obéir. Nous nous embrassions avec tendresse et nous retournions au salon bruyant où nos amis nous attendaient pour nous séparer. Cependant, à mesure que nos jours se succédaient ainsi, Léonie ne prenait plus les mêmes soins pour me les faire aimer. Il s'occupait moins de la contrariété que j'éprouvais, et lorsque je la lui exprimais, il la combattait avec moins de douceur. Un jour même, il fut brusque et amer. Je vis que je lui causais de l'humeur. Je résolus ne plus me plaindre désormais, mais je commençais à souffrir réellement et à me trouver malheureuse. J'attendais avec résignation que Léonie prît le temps de revenir à moi. Il est vrai que dans ces moments-là, il était si bon et si tendre que je me trouvais folle et lâche d'avoir tant souffert. Mon courage et ma confiance se ranimaient pour quelques jours, mais ces jours de consolation étaient de plus en plus rares. Léonie, me voyant douce et soumise, me traînait toujours avec affection, mais il ne s'apercevait plus de ma mélancolie. L'ennui me rongeait. Venise me devenait odieuse. Ses eaux, son ciel, ses gondoles, tout m'y déplaisait. Pendant les nuits de jeu, j'errais seul sur la terrasse, au haut de la maison. Je versais des larmes amères. Je me rappelais ma patrie, ma jeunesse insouciante, ma mère si jolie et si bonne, mon pauvre père si tendre et si débonnaire, et jusqu'à ma tante avec ses petits soins, ses longs sermons. Il me semblait que j'avais le mal du pays, que j'avais envie de fuir, d'aller me jeter aux pieds de mes parents et d'oublier à jamais Léonie. Mais si une fenêtre s'ouvrait au-dessous de moi, si Léonie, là, du jeu et de la chaleur, s'avançait sur le balcon pour respirer la fraîcheur du canal, je me penchais sur la rampe pour le voir, et mon cœur battait comme au premier jour de ma passion quand il franchissait le seuil de la maison paternelle. Si la lune donnait sur lui et me permettait de distinguer sa noble taille sous le riche costume de fantaisie qu'il portait toujours dans l'intérieur de son palais, je palpitais d'orgueil et de plaisir, comme le jour où il m'avait introduit dans ce bal dont nous sortîmes pour ne jamais revenir. Et si sa voix délicieuse, essayant une phrase de chant, vibrait sur les marbres sonores de Venise et montait vers moi, je sentais mon visage inondé de larmes, comme le soir sur la montagne, quand il me chantait une romance composée pour moi le matin. Quelques mots que j'entendis sortir de la bouche d'un de ses compagnons augmentèrent ma tristesse et mon dégoût à un degré insupportable. Parmi les 12 amis de Léonie, le vicomte de Chalme, français, soi-disant émigré, était celui dont je supportais l'assiduité avec le plus de peine. C'était le plus âgé de tous et le plus spirituel, peut-être. Mais sous ses manières exquises, perçait une sorte de cynisme dont j'étais souvent révolté. Il était sardonique, insolent et sec. C'était de plus un homme sans mœurs et sans cœur. Mais je n'en savais rien, et il me déplaisait suffisamment sans cela. Un soir, que j'étais sur le balcon et qu'un rideau de soie l'empêchait de me voir, j'entendis qu'il disait au marquis vénitien « Mais où est donc Juliette ?» Cette manière de me nommer me fit monter le sang au visage. J'écoutais et je restais immobile. « Je ne sais, » répondit le vénitien. « Ben, ça vous est donc bien amoureux d'elle ?»« Ou pas trop, » répondit-il, « mais assez. » « Et Léonie ?»« Oh, Léonie me la cédera de ses jours. »« Comment, sa propre femme ?»« Allons donc, marquis, est-ce que vous êtes fou ?» reprit le vicomte. « Elle n'est pas plus sa femme que la vôtre. C'est une fille enlevée à Bruxelles. Quand il en aura assez, oh, ce qui ne tardera pas. » Je m'en chargerai volontiers. Si vous en voulez après moi, marquis, inscrivez-vous en titre. Bon, grand merci, répondit le marquis. Je sais comme vous dépravez les femmes et je craindrais de vous succéder. Je n'entendis pas davantage. Je me penchai à demi-morte sur la balustrade, et cachant mon visage dans mon châle, je sanglotais de colère et de honte. Dès le soir même, j'appelai Léonie dans ma chambre, et je lui demandai raison de la manière dont j'étais traité par ses amis. Il prit cette insulte avec une légèreté qui m'enfonça un trait mortel dans le cœur. « Mais tu es une petite sotte, me dit-il, tu ne sais pas ce que c'est que les hommes. Leurs pensées sont indiscrètes et leurs paroles encore plus. Les meilleurs sont encore les roués. Une femme forte doit rire de leurs prétentions au lieu de s'en fâcher. » Je tombai sur un fauteuil et je fondis en larmes en m'écriant « Oh, ma mère, qu'est devenue votre fille ?» Léonie s'efforça de m'apaiser et il n'y réussit que trop vite. Il se mit à mes pieds, baisa mes mains et mes bras, me conjura de mépriser un sot propos et de ne songer qu'à lui et à son amour. « Hélas, lui dis-je, que dois-je penser quand vos amis se flattent de me ramasser comme ils font une de vos pipes quand elles ne vous plaisent plus ?»« Juliette, répondit-il, l'orgueil blessé te rend amer et injuste. J'ai été libertin, tu le sais, je t'ai souvent parlé des dérèglements de ma jeunesse. Mais je croyais m'en être purifié à l'air de notre vallée. Mes amis vivent encore dans le désordre où j'ai vécu. Ils ne savent pas, ils ne comprendraient jamais les 6 mois que nous avons passés en Suisse. Mais toi, devrais-tu les méconnaître, les oublier ? » Je lui demandai pardon. Je versai des larmes plus douces sur son front et sur ses beaux cheveux. Je m'efforçais d'oublier la funeste impression que j'avais reçue. Je me flattais d'ailleurs qu'il ferait entendre à ses amis que je n'étais point une fille entretenue et qu'ils eussent à me respecter. Mais il ne voulut pas le faire ou il n'y songea pas, car le lendemain et les jours suivants, je vis les regards de M. de Chalm me suivre et me solliciter avec une impudence révoltante. J'étais au désespoir, mais je ne savais plus comment me soustraire aux mots où je m'étais précipité. J'avais trop d'orgueil pour être heureuse et trop d'amour pour m'éloigner. Un soir, j'étais entré dans le salon pour prendre un livre que j'avais oublié sur le piano. Léonie était en petit comité avec ses élus. Ils étaient groupés autour de la table à thé au bout de la chambre, qui était peu éclairée et ne s'apercevait pas de ma présence. Le vicomte semblait être dans une de ses dispositions taquines les plus méchantes. « Ben alors, Léoné de Léonie, dit-il d'une voix sèche et railleuse, sais-tu, mon ami, que tu t'enfonces cruellement ?» « Qu'est-ce que tu veux dire ?» reprit Léonie. « Je n'ai pas encore de dettes à Venise. »« Oh, mais tu en auras bientôt. »« J'espère que oui, » répondit Léonie avec la plus grande tranquillité. « Vive Dieu !» dit le marquis, « tu es le premier des hommes pour te ruiner. 1,5 million en 3 mois, sais-tu que c'est un très joli train ?» La surprise m'avait enchaîné à ma place. Immobile et retenant ma respiration, j'attendis la suite de ce singulier entretien. « 1,5 million ?» demanda le marquis vénitien avec indifférence. « Oui, repartit Chalm, le juif Thaddée lui a compté 500 000 francs au commencement de l'hiver. » « C'est très bien, dit le marquis. Léonie, as-tu payé le loyer de ton palais héréditaire ?»« Parbleu d'avance, dit Chalm. Est-ce qu'on le lui aurait loué sans ça ?»« Mais qu'est-ce que tu comptes faire quand tu n'auras plus rien ?» demanda à Léonie un autre de ses affidés. «
Ben, des dettes, répondit Léonie avec un calme imperturbable. Oui, c'est plus facile que de trouver les Juifs qui nous laissent 3 mois en paix, dit le vicomte. Mais que feras-tu quand tes créanciers te prendront au collet? Je prendrai un joli petit bateau, répondit Léonie en souriant. Bien, oui, et tu iras à Trieste. Non, c'est trop près. À Palerme, je n'y ai pas encore été. Mais quand on arrive quelque part, dit le marquis, il faut faire figure dès les premiers jours. Oh, la Providence y pourvoira, répondit Léonie. C'est la mère des audacieux. Mais pas celle des paresseux, dit Chalm. Et je ne connais au monde personne qui le soit plus que toi. Que diable as-tu fait en Suisse avec ton infante pendant 6 mois ? Silence là-dessus, répondit Léonie. Je l'ai aimée et je jetterai mon verre au nez de quiconque la trouvera plaisant. Léonie, tu bois trop, lui cria un autre de ses compagnons. « Peut-être, répondit Léonie, mais j'ai dit ce que j'ai dit. » Le vicomte ne répondit pas à cette espèce de provocation, et le marquis se hâta de détourner la conversation. « Mais pourquoi, diable, ne joues-tu pas ? » dit-il à Léonie. « Ventre Dieu, mais je joue tous les jours pour vous obliger, moi qui déteste le jeu. Vous me rendrez stupide avec vos cartes et vos dés et vos poches qui sont comme le tonneau des Danaïdes et vos mains insatiables. Vous n'êtes que des sots, vous tous. Quand vous avez fait un coup, au lieu de vous reposer et de jouir de la vie en voluptueux, vous vous agitez jusqu'à ce que vous ayez gâté la chance. La chance, dit le marquis. On sait ce que c'est que la chance. Grand merci, dit Léonie, je ne veux plus le savoir. J'ai été trop bien étrillé à Paris. Quand je pense qu'il y a un homme, oh, que Dieu veuille bien dans sa miséricorde donner à tous les diables. Eh bien, dit le vicomte, un homme, dit le marquis, dont il faudra que nous nous débarrassions à tout prix si nous voulons retrouver la liberté sur la terre. Mais patience, nous sommes deux contre lui. Sois tranquille, dit Léonie, je n'ai pas tellement oublié la vieille coutume du pays que je ne sache purger notre route de celui qui me gênera. Sans mon diable d'amour qui me tenait à la cervelle, j'avais beau jeu en Belgique. Toi, dit le marquis, tu n'as jamais opéré dans ce genre-là et tu n'en auras jamais le courage. Le courage ? S'écria Léonie en se levant à demi avec des yeux étincelants. « Pas d'extravagance, reprit le marquis, avec cet effroyable sang-froid qu'ils avaient tous. « Entendons-nous, tu as eu du courage pour tuer un ours ou un sanglier. Mais pour tuer un homme, tu as trop d'idées sentimentales et philosophiques dans la tête. »« Cela se peut, répondit Léonie en se rasseyant. Cependant, je ne sais pas. Tu ne veux donc pas jouer à Palerme ? Dit le vicomte. Ah, au diable, si je pouvais me passionner pour quelque chose, pour la chasse, pour un cheval, pour une calabraise olivâtre, mais j'irai l'été prochain m'enfermer dans les Abruzzes et passer encore quelques mois à vous oublier tous. Mais repassionne-toi pour Juliette ! Dit le vicomte avec ironie. « Non, je ne me repassionnerai pas pour Juliette, » répondit Léonie avec colère. « Mais je te donnerai un soufflet si tu prononces encore son nom. »« Il faut lui faire boire du thé, » dit le vicomte, « il est ivre-mort. »« Allons, Léonie, » s'écria le marquis en lui serrant le bras, « tu nous traites horriblement ce soir, qu'as-tu donc ?» « Ne sommes-nous plus tes amis ? Doutes-tu de nous ? Allez, parle !»«
Non, je ne doute pas de vous, dit Léonie. Vous m'avez rendu autant que je vous ai pris. Je sais ce que vous valez tous. Le bien et le mal, je juge tout cela sans préjugé, sans prévention. Oh, il ferait beau voir, dit le vicomte entre ses dents. Alors, du punch, crièrent les autres. Il n'y a plus de bonne humeur possible si nous achevons de griser Chalme et Léonie. Ils en sont aux attaques de nerfs, mettons-les dans l'extase. Oui, mes amis, mes bons amis, cria Léonie, le punch, l'amitié, la vie, la belle vie, à bas les cartes, ce sont elles qui me rendent maussade. Vive l'ivresse, vive les femmes, vive la paresse, le tabac, la musique, l'argent, vive les jeunes filles et les vieilles comtesses, vive le diable, vive l'amour, vive tout ce qui fait vivre. Tout est bon quand on est assez bien constitué pour profiter et jouir de tout. Ils se levèrent tous en entonnant un chœur bachique. Je m'enfuis. Je monte à l'escalier avec l'égarement d'une personne qui se croit poursuivie, et je tombais sans connaissance sur le parquet de ma chambre.